deuxième étape. Accepter la colère et l'envie de se venger.
Il arrive souvent que le mot « colère » évoque chez les gens des scènes d'extrême violence. En conséquence, il se forme en eux une grande peur de ressentir cette émotion. Certains maîtres spirituels ont beaucoup de difficultés à voir dans la colère et dans l'envie de se venger des réalités psychologiques saines en soi. En vertu d'une conception tronquée de l'amour, ils jugent devoir refouler tout sentiment d'agressivité. Souvent, il arrive que des prédicateurs, des maîtres spirituels ou des tenants du Nouvel Âge opposent pardon et colère. Selon eux, pour arriver à pardonner, il faudrait d'abord étouffer tout sentiment de colère et chasser toute pensée de vengeance. En somme, ils encouragent la répression de tout sentiment dit « négatif ». Cette démarche me paraît sans issue, car de même que le pardon est impossible à accorder s'il n'a pas été précédé d'une prise de conscience et d'une acceptation de sa honte, il le sera tout autant si l'on réprime sa colère et son goût de vengeance. Ne pas reconnaître et accepter sa colère et son envie de se venger sous prétexte de vouloir pardonner, c'est se mentir à soi-même en plus de travestir le pardon en grimace sociale. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'encourager ou de nourrir le ressentiment. On confond trop souvent l'émotion spontanée de la colère et du ressentiment. Il faut tout d'abord distinguer l'émotion passagère de la colère et de l'envie de se venger, d'une part, du sentiment volontaire et entretenu de la haine ou du ressentiment, d'autre part. Bien que la colère soit un mouvement violent de l'âme, elle contient, malgré ses apparences, des éléments positifs. Elle est une réaction normale à un acte d'injustice, une recherche d'authenticité et un effort pour enlever l'obstacle qui fait écran à l'amour d'autrui. Le ressentiment, par contre, s'implante dans le cœur humain comme un cancer. Il camoufle une colère sourde et tenace qui n'est assouvie que lorsque l'offenseur est puni ou humilié. Il peut revêtir diverses formes, sarcasme, haine durable, attitude méprisante, hostilité systématique, critique blâmante et passivité agressive qui empêche toute joie dans les relations. Aussi longtemps que l'on ne veut pas reconnaître sa colère et en tirer le meilleur parti possible, il y a danger qu'elle pourrisse à l'intérieur de soi et se mue en ressentiment et en haine.
Les effets néfastes de la colère refoulée.
Réprimer sa colère, c'est s'enfoncer dans un marais sans espoir d'en sortir. Quand une émotion est refoulée parce que jugée inacceptable par la société, on peut s'attendre à ce qu'elle surgisse tôt ou tard sous forme de déviation. La colère réprimée peut se déplacer et s'attaquer à des êtres innocents, qu'il s'agisse d'objets, d'animaux ou de personnes. Il arrive souvent que des poussées incontrôlables de violence tirent leur origine de l'accumulation de petites colères refoulées. Un des effets les plus courants du refoulement de la colère est la tendance à prêter aux autres son propre sentiment d'irritation. L'individu qui n'a pas pris conscience de sa propre colère a tendance à la transférer aux autres. Une autre déviation de la colère consiste à la retourner contre soi-même. Elle se produit chez les personnes qui s'interdisent le moindre mouvement de colère et qui se culpabilisent à la première manifestation de celle-ci. Ainsi, elles s'accusent, s'auto-punissent quand elles ne sombrent pas dans une dépression nerveuse. La colère refoulée peut encore prendre divers déguisements tels que le blâme, la critique hargneuse, le cynisme froid, l'hostilité accusatrice ou le mécontentement.
Les côtés bénéfiques de la colère.
La colère entendue au sens d'un mouvement violent et agressif de l'âme n'a rien de mauvais en soi. Au contraire, elle relève d'un instinct salutaire de survie physique, psychologique et morale. Son effet maléfique ou bénéfique dépend de l'usage que l'on en fait. Bien utilisée, elle sert au bon fonctionnement des relations humaines entre époux, entre amants, entre amis, entre parents et enfants, ou entre patrons et employés. Dans tous ces cas, il importe de défendre ses frontières et ses valeurs et de le faire parfois avec vigueur et indignation. À l'opposé de ce qui se passe quand on affiche une attitude d'indifférence ou d'agressivité rentrée, la juste manifestation de sa colère implique le désir de rétablir le contact. l'affirmation de soi, même colérique, cherche à enlever les obstacles à la communication et à l'amour. D'autres effets bénéfiques découlent de l'agressivité non refoulée et assumée, comme par exemple celui de m'amener à découvrir les valeurs qui me tiennent le plus à cœur. La colère a donc ici comme effet de montrer avec plus de clarté ce qu'on veut être et faire. Elle sonne l'alarme, elle m'avertit du danger qu'un autre puisse abuser de moi ou m'envahir mes frontières personnelles. Ou encore la colère me fera réagir devant des injustices commises envers une personne ou un groupe d'individus. En somme, elle réveille en moi l'énergie morale requise pour affronter le mal et l'injustice.
Maîtriser sa colère pour la mettre à son service.
Si le refoulement de la colère et de l'envie de se venger conduit fatalement à des impasses, que faut-il en faire au juste ? Les laisser bouillonner en soi ou les apprivoiser ? Il n'existe pas d'émotions négatives ou méprisables en soi. Les émotions constituent des énergies humaines positives. Elles demandent à être reconnues, maîtrisées et utilisées à bon escient. Par ailleurs, lorsqu'elles sont l'objet de craintes et refoulées dans l'inconscient, elles forment des noyaux d'émotions et d'images quasi autonomes qui prennent alors le nom de complexes. En psychologie jungienne, le matériel refoulé forme l'ombre de la personnalité. Celle-ci devient anarchique et incontrôlable aussi longtemps que la personne refuse d'en prendre conscience et tente de la fuir.
Se détacher du ressentiment.
Certaines personnes blessées refusent d'abandonner le ressentiment. En effet, elles craignent que si elles acceptent de transformer le ressentiment et leur haine, elles se trahiront elles-mêmes. Elles croient à tort que garder bien vivant le ressentiment pourra sauvegarder leur dignité humaine et leur éviter de s'exposer à d'autres humiliations de la part de l'offenseur. Certes, l'intention de faire respecter sa dignité personnelle est noble, mais il n'en est pas moins certain que cultiver son ressentiment conduit à la détérioration de soi ainsi qu'à des cycles de vengeance stériles comme nous l'avons vu plus haut. Or, il existe d'autres moyens de maintenir sa dignité et l'estime de soi sans pour autant se laisser ronger et détruire par sa propre animosité. D'autres individus estiment que le ressentiment et la haine peuvent servir à les motiver pour se prouver à eux-mêmes et aux autres leur valeur et leur capacité. C'est ce qu'une femme soutenait lors d'une de mes conférences. Elle affirmait que c'est grâce à sa haine et à sa rancune qu'elle avait entrepris et réussi ses études. Elle avait voulu prouver à son ex-conjoint qu'elle était capable d'être autonome financièrement. Après l'avoir félicité de sa persévérance et de ses succès académiques, je lui demandai quand elle cesserait d'agir en fonction de son ex-conjoint pour mieux investir ses énergies en fonction d'elle-même et de ce qu'elle voulait faire de sa vie. Le ressentiment, comme une fusée, peut procurer un départ, une forte énergie, mais de courte durée.